Bon, bienvenue.
Ça, c'est la deuxième rencontre autour de la question en fait, des productions, des productions matérielles pendant le processus de création. On invite des artistes à montrer en fait, ces productions-là. Et aujourd'hui, c'est Meryl et Maria qui vont parler. Et merci.
Tu veux commencer ou pas?
Moi, je
suis là. Vas-y, tout à l'heure.
Bonjour, je m'appelle Maria.
Bonjour.
Et merci beaucoup pour l'invitation. Et moi, je vais parler d'une pratique du cinéma expérimental photochimique. Je fais depuis quelques années. Et dans mon cas, c'est en 16 mm. Et c'est une sorte de pratique qui permet la création de pellicules, d'éléments visuels qui n'entrent pas forcément dans un projet final du film, mais qui peuvent jouer un rôle aussi, peuvent avoir d'autres résultats ou d'autres projets, des performances ou des choses. Ce qui, j'espère, entre un peu avec. Dialogue un peu avec la thématique donc soit un abouti qui vient quelque chose. Et bon, d'abord, je vais présenter le milieu de création de ce type, et puis je vais vous montrer un film que j'ai fait en 2014. Et puis je vais parler d'un film sur lequel je travaille. Avec le cinéma argentique, je pense que beaucoup de gens ne savent pas que ça existe toujours, comment ça se passe. Et en fait, il existe toujours des pellicules et des laboratoires commerciaux, donc c'est tout à fait possible. Mais dans mon cas, je m'intéresse plutôt à des associations indépendantes qui travaillent les pellicules de manière expérimentale et tout est complètement autogéré et indépendant de l'industrie au cinéma. Et bon, ces laboratoires existent depuis peut-être les années 90. Il y a une quarantaine dans le monde. Il y a deux à Paris. Donc il y a l'Abominable à la Courneuve et l'Etna à Montreuil. Je vais vous montrer quelques images. Donc ce sont des lieux qui sont créés par les cinéastes eux-mêmes et où il y a rassemble des outils des outils techniques, des machines qui sont plus utilisées dans l'industrie du cinéma, évidemment. Et les cinéastes gèrent ces espaces de manière collective. Et donc ça permet de maîtriser tout le processus de faire un film à partir du tournage, le développement, l'étalonnage, le montage, l'harmonisation, le tirage final, la sonorisation. Donc ça c'est l'Abominable, ça c'est une machine de développement qui a été récupérée à un laboratoire commercial et modifiée pour un travail plus petit échelle. Voilà, ça. Et là-bas, il y a des machines pour la sonorisation, donc l'humidité. Ça, c'est la cuisine partagée. Donc, on fait aussi des repas collectifs. C'est vraiment un lieu engagé où tout le monde est un peu impliqué dans le projet ensemble. Et c'est financé en partie par la région, par le CNC, et en moitié par. Et parallèlement, il y a aussi un autre espace comme ça à Montreuil qui s'appelle l'Etna, et ça c'est beaucoup plus petit. Il y a juste une petite chambre noire avec de la chimie où on peut faire les choses à la main. Ça c'est en fait c'est au Brésil, c'est
Argentin,
je l'ai connu. Oui, c'est un récit.
Oui, oui. Mais c'est pas un labo, c'était dans sa cuisine.
Oui. Bon, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des pratiques très différentes et des capacités très différentes entre les labos, mais il existe une sorte de réseau où ils se parlent tous et partagent des astuces et tout. Ils ont vraiment des moyens très différents.
Ils font une collection aussi, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils faisaient une collection hier, maintenant.
Voilà. Ouais, okay. Mais une fois par mois, il y a une assemblée générale et après, il y a la projection.
C'est un site qui s'appelle FilmLabs, qui répertorie tous les labos dans le monde.
Ouais, FilmLabs, Et donc, il y a les moyens différents, il y a les pratiques très différentes. Et à la bonne heure, par exemple, on fait des... Je dirais pour la plupart des longs métrages, plutôt documentaires, parce que c'est possible. Mais à l'ETNA, on fait plus d'expériences formelles. Et, il y a aussi un labo à Grenoble, Atelier MTK, où ils font. En fait, je crois que la plupart des cinéastes ne finissent pas de film, mais ils font des performances à partir de romans sur lesquels ils font des expériences de développement, de destruction, de l'image. Et donc c'est une sorte de jeu en fait, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, on fait des détournements de développement et où on détruit l'image, on peut griffer, coller des trucs sur l'image et on ne prévoit pas forcément les résultats et donc on a beaucoup de tests et, qui restent. Et par exemple, ce labo Atelier MTK, ils ont fait récemment un workshop, ils sont venus à l'ETNA pour donner un workshop sur... Ah, j'ai pas montré de labo. Ça, c'est en Australie. Et ça, c'est à New York. Il existe aussi des labos à Jakarta, en Indonésie, en Islande, en Égypte, il y a un labo en Norvège, au-delà de Saint-Polaire, aux États-Unis maintenant, en France il y a peut-être une dizaine. Il y a un très grand labo à Berlin, qui s'appelle Labo Berlin, et à Rotterdam.
Voilà.
En Amérique du Sud.
En
Amérique du Sud. Et il y a des labos, de nouveaux labos qui. Tout le temps en fait. Et ok, Atelier MTK, ils sont venus récemment à l'ETNA pour donner un workshop sur une pratique qui s'appelle le tirage à plat. Donc, si on a une image négative, normalement, qu'on a tourné, normalement, on utilise une machine comme. Mais pour faire une copie positive. Mais c'est aussi possible de le faire à la main avec. Avec juste une source lumineuse. Non, il est parti. Donc, on peut prendre une image négative et la mettre à. Par-dessus une pellicule vierge et puis exposer la pellicule vierge avec une source lumineuse comme une lente de poche dans le noir et puis développer. Et bien sûr qu'on peut complètement détourner le processus parce que, comme ils ont fait ici par exemple, quelqu'un a mis en voie de pellicule de manière un peu aléatoire. Ici c'est peut-être un test d'exposition parce que c'est un peu difficile à savoir combien de lumière il faut pour bien exposer l'image. Ici, ils ont peut-être utilisé un filtre coloré sur une partie de l'image. Là, quelqu'un a mis des négatifs photos. Ici, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont, ils ont joué avec le développement. En fait, c'est une pellicule couleur.
Ouais, on peut se mettre là, il y a encore une poche, on peut chercher des chaises aussi. Mais... On saute sur le canapé. Non, tu vois.
Donc Donc là, après l'exposition, ils ont fait un développement croisé, mais un peu détourné aussi, parce qu'ils ont allumé la lumière au milieu du développement, ce qui se fait pas du tout normalement, pour obtenir un sorte d'effet de solarisation. Et puis, un effet de solarisation, donc il y a une image négative et positive un peu en même temps. Et ils ont aussi utilisé des filtres pendant l'exposition, donc c'est vraiment une image un peu comme un arc-en-ciel.
Le traitement croisé, du coup, c'est quand tu inverses des couches chimiques, c'est ça ?
Oui, mais pour obtenir la solarisation, on peut aussi allumer pendant la première couleur. Voilà. Et après le workshop, en fait, les participants ont pris ces robots et ils ont fait une performance improvisée avec plusieurs projecteurs de cette lumière. C'est vraiment très cool parce qu'ils ont fait des boucles de cerveau, ils ont joué avec des filtres pendant la projection, des prismes et tout. Et comme je vais vous montrer, moi aussi je sais ce type de pratique en ce moment pour un film à moi, qui n'est pas aussi détourné comme ça, mais je vais vous montrer. Bon, c'est juste un des exemples de ce qui est possible quand on fait le développement et l'exposition. Tirage à soi-même. Et quand j'étais à Boston, où j'ai fait mes études de cinéma, je ne connaissais pas du tout le milieu des laboratoires, mais je connaissais déjà cette idée qu'on peut faire un peu n'importe quoi dans la salle de bain avec des puissances lumineuses. Et en fait, j'ai fait des études à une école assez carrée, du cinéma très classique, mais il y avait des cinéastes expérimentaux qui nous ont montré des ressources comme celui-ci, c'est s'appelle les recettes pour un désastre. Et il y a beaucoup de recettes, là. C'est une cinéaste qui l'a fait, je crois, dans les années 90. Et je vous montre juste un des... Comment trouver une page de la
miniature. C'est la deuxième. Après, tu peux.
Ah! Il y a plein de recettes. Et c'est, en fait, c'est disponible en ligne si quelqu'un s'intéresse.
C'est que pour le film, le cinéma?
Ouais. C'est aussi pour la photo aussi. Ouais. Je vais vous en parler. Ça, j'ai trouvé assez drôle parce que. Enfin, ça, c'est une violette. Tiens, je te bouge, c'est pas une chose. Voilà, comment faire en mélange avec les doigts. Voilà. C'est très drôle aussi. Et donc, ça m'est arrivé d'essayer ce type de truc à cette école et aussi chez moi après. Et pour mes études, j'ai fait un film de diplôme de 10 minutes où j'ai juste filmé des images normales. Je vais vous montrer un extrait. C'était un film en 16 mm. C'était un film où je suis allée à un endroit pas loin de chez moi, à Boston. Et j'y revenais pendant quelques mois. Je filmais juste un moment, c'est un petit lac. Je vais juste montrer une minute. Donc pour ce film, j'ai envoyé la pellicule à un laboratoire commercial. Et tout le tirage, tout a été fait là-bas, parce qu'on y a fait la même sorte le montage négatif.
Après, tu l'as filmé pour récupérer le mail
Bah oui, juste pour avoir la trace. Bon, c'est vrai que j'ai une copie. Mais à cette époque-là, parce que j'ai fini mes études en 2009, et à cette époque-là, c'était encore. ça, juste pour que vous puissiez reconnaître après les images, parce que pour ce projet, j'ai... parce que j'ai obtenu beaucoup de pellicules gratuitement pour ce projet, une part de l'école, et j'ai beaucoup, beaucoup caché au tournage. Et après, parce que je ne suis pas très organisée, j'avais juste un sac en plastique avec comme ça. Et je me disais que c'est un peu dommage et il faudrait en faire quelque chose. Et en 2014, j'ai eu envie de me remettre à faire des films et j'ai commencé juste à jouer un peu avec ce que j'avais, juste pour juste comme ça. Et à partir un peu de ces recettes, j'ai mis du Javel sur l'image, j'ai mis des produits que j'ai pu trouver à la maison. Et puis j'ai fait bouillir la pellicule aussi, ce qui fait un effet assez étrange, qui s'appelle la réticulation, où l'émulsion chimique se réorganise d'une manière, c'est un peu, ça devient une sorte de motif ou abstrait. Et puis, si on fait bouillir trop, ça va mal s'en mettre. Donc, j'ai joué comme ça, et puis ça, les résultats m'ont plu, et j'ai fini par faire un montage, et finalement, j'ai fait un film de 4 minutes. Je vais vous le montrer. Je vais le montrer. Il faudrait expliquer que, bien sûr, que j'ai réphotographié les images, parce que comme elle était, c'est pas possible de les projeter parce qu'il y a de la mesure qui sont derrière. Et j'ai aussi fait ça pour ralentir un peu l'image et pour agrandir sur les détails. Et j'ai eu des problèmes avec la tireuse optique. Bah, ça, c'était avec une tireuse optique, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Comme cet appareil. Un peu plus simple que ça, mais et j'ai eu des problèmes avec la tireuse optique qui sautait un peu, qui se coinçait, mais j'ai gardé les erreurs. Parce que j'ai trouvé ça
intéressant. Et le sang, tu l'as fait le sang du film, du coup, tu l'as fait après
Oui, je l'ai fait après. Ouais. Je sais pas trop si c'est ce qu'on dire, mais ça, j'ai juste enregistré des.
Ça, c'est le film qui a été bouilli.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait avec les films?
Qu'est-ce que j'avais? Quelles étaient les images d'origine? Mais c'était des images qui venaient de l'autre film.
Ah, d'accord. Okay.
C'était plus d'images de ce film.
Tu l'as juste bouilli ou t'as ajouté de la javel comme tu avais dit?
Je peux peut-être vous montrer. Bon, là, c'est une image bouillie, parce que ça commence vraiment à couler. Et puis, quand ça sort de l'eau, ça regèle un peu et, de manière différente. Mais parfois, on peut quand même reconnaître l'image d'origine. Mais je peux trouver un exemple de la réticulation. Là, en fait, c'est un peu différent parce que j'ai aussi mis une lumière pendant le tirage optique. J'ai mis une autre lumière à côté qui crée un peu des ondes aussi. Donc l'image qui est un peu en 3D après tout le processus est allumé de manière différente. Pas juste derrière.
Les formes, tu as trouvé par hasard?
Les quoi?
Les formes, toutes les formes, les couleurs et tout ça. Tu savais un peu où tu allais arriver, donc c'était vraiment un hasard.
Oui,
okay. Bon. Tu faisais l'expérience avec la pellicule,
voilà.
Et ça venait.
Okay. Ouais, une fois qu'il y avait un truc qui me plaisait, j'ai essayé de le répliquer, mais
okay.
Quand même.
Okay.
Là, c'est un peu peut-être un exemple de cette réticulation dont j'ai parlé, parce que vous voyez, il y a un peu de...
tu as fait un travail de montage.
Un travail de montage?
Oui.
Bah oui, je les ai arrangés de manière, mais vraiment de manière assez libre.
Oui.
En fait, parce que j'avais du mal à faire quelque chose, faire un film, et c'est comme ça que je me suis permis de faire quelque chose juste en jouant.
Ok.
Sans le faire de manière trop sérieuse. Et là, je crois que, en fait, parce qu'il faisait assez froid à cette époque, et j'avais mis des. Bon, il faut aussi mettre un peu de bicarbonate de sodium ou quelque chose comme ça dans l'eau quand on fait venir le bébé. Et puis, quand ça se refroidit, parfois ça crée un peu de cristaux ou quelque chose comme ça sur la surface. Et là, je n'ai pas fait beaucoup de films, mais là, j'essaie de travailler sur un nouveau film. Et pour lequel j'ai filmé à Saint-Pétersbourg, d'où je viens, et dans un quartier où habite ma grand-mère, qui est un quartier très, très soviétique, avec des immeubles des années 70. Et que j'ai toujours trouvé très moche. Et je sais pas, j'ai eu une sorte de désir de filmer et de comprendre ce lieu et comment est-ce qu'on peut vivre là-bas et comment est-ce qu'on peut construire une identité dans un lieu comme ça. Mais je n'avais pas trop de démarches définies, donc j'ai juste filmé comme ça dans les rues et j'ai aussi fait deux entretiens, un avec ma grand-mère et un autre avec un oncle. Donc ma grand-mère et mes grands-parents travaillaient dans une usine qui se situe là-bas. Et cet autre homme que j'ai trouvé, que j'ai rencontré là-bas, il lui travaillait dans un centre de recherche nucléaire qui est aussi là-bas. Et ce sont juste deux côtés de la même peut-être histoire de travail dans la vie génétique. Et bon, j'ai commencé à faire, essayer de faire un montage à partir de l'histoire que je rencontre les deux. Mais quand même, j'ai des images 16 mm noir et blanc développées à la main, à l'ETMA, qui sont un peu comme ça. Et ça m'intéresse quand même de faire quelque chose d'intéressant au niveau formel. Et donc, parallèlement, je fais une sorte de travail de montage plutôt narratif, mais parallèlement aussi, je fais des expériences avec. Le tirage en plat dont j'ai parlé tout à l'heure. J'essaie de faire des images positives à partir de négatif dans un champ noir, en fait, on a fait avec la foule. Et on a utilisé un briquet au lieu de l'encre poche. En fait, pour des raisons pratiques, parce que avec les lampes de poche, on ne sait jamais. Parce que les piles elles peuvent s'épuiser ou. À chaque fois, c'est un peu différent la luminosité. On ne peut pas. On fait. Bon, on peut faire des notes sur comment procéder, à quelle distance mettre la lampe proche et tout. Mais à chaque fois, ce sera un peu différent et donc on passe beaucoup de temps à faire des tests. Mais avec un briquet, c'est assez. C'est pareil à chaque fois. C'est la luminosité à chaque fois. Et c'est cool. Ben, je vais peut-être vous montrer. Un montage vraiment juste que j'ai fait juste pour avoir quelque chose qui donne une idée des images d'origine et puis je vais juste vous montrer les rubans de véhicules que j'ai fait juste ici. Voilà. Bon, ce sont deux images différentes et d'abord on a fait une exposition avec un briquet, on a fait une sorte de geste comme ça. Et puis on a pris l'autre image et on a fait l'inverse. Et ça crée une sorte de. Ça marche. C'est incroyable. Là, c'est ça, c'était juste une tentative d'obtenir une image déjà bien exposée. Qui a marché plus ou moins bien. Voilà, c'est. Parfois c'est assez. Mais, parfois, c'est très flou.
Parce que si, si les pellicules ne sont pas vraiment très serrées l'une contre l'autre, ça peut créer des flots comme ça. En plus, ça, c'est un plan qui dure peut-être 7 secondes, donc, mais je veux bien le garder, donc je veux bien faire quelque chose.
Comment tu vas faire pour le ralentir après, si tu veux ralentir ce plan?
Là, on peut pas, je ne peux pas ralentir avec cette technique, mais je peux boucler, par exemple, se reposer. Mais oui, là, voilà, en intérieur, il faudrait utiliser une tireuse. Voilà,
merci. Et quand tu parles du coup de la lampe de poche tout à l'heure, tu dis la lampe de poche tout à l'heure, en fait, tout est développé à lampe de poche ou c'est juste une technique
Le développement Le tirage,
le tirage, ouais.
Bah, on peut utiliser n'importe quelle source lumineuse.
On pourrait allumer tout d'un coup de manière uniforme, non?
Oui, bah, il faudrait vraiment maîtriser le geste.
Ah. Que ce soit. Ok. Je crois que je ne vois pas trop comment
ça existe. Tu vois pas trop. Mais on prend.
Bon. Ouais, mais du coup, elle se déroule. Ça se déroule en fait. En fait, j'arrive pas à. C'est vers le système. Mais...
Là, on travaille avec des morceaux de pellicule.
Ouais. Donc,
donc si ça c'était des bulles vierges non exposées et l'autre avait des images négatives et tu les mets en soir, donc la vierge est par dessus, et dans le noir ou sous une lumière rouge tu prends un sauce comme ça, et ça devrait être vraiment très collé.
Et du coup, si on imagine qu'on les met toutes en bande, bien collées, et qu'on allume les lumières à fond, ça pourrait tout installer d'un coup, en fait.
Je sais pas si ce serait trop fort, peut-être.
L'angle. Tout viendrait d'un point de la zone qui est plus proche, c'est trop de plus, c'est trop plus loin.
Mais c'est vrai qu'il y a des cinéastes, par exemple, qui utilisent des tables lumineuses et qui préparent les pellicules sur la table lumineuse et puis ils allument. Mais il faut vraiment pouvoir étendre très rapidement. Sinon, c'est trop fort. Mais c'est amusant avec le briquet, en plus, on peut faire des choses.
Et pour ce film avec ta grand-mère, c'est quoi?
Elle aime pas du tout être filmée, donc j'ai des images d'elle dedans. Et j'ai déjà 40 minutes de rush, mais peut-être 20 minutes de rush qui me plaisent. Et pour l'instant, et j'ai des heures d'entretien. Pour l'instant, j'essaie de monter l'entretien d'abord et parallèlement faire quelques trucs et voir comment mettre les deux ensemble.
Et du coup, les discours dans le film, on a entendu parler, moi j'ai compris, mais ça parle.
Ça parle de quoi?
Ça parle de quoi?
J'ai posé des questions sur le développement de ce quartier. Parce que ma grand-mère, par exemple, elle est arrivée juste après la guerre, la seconde guerre. Mais c'était avant la construction de tous ces bâtiments, c'était vraiment plutôt comme à la campagne. Et comme elle a travaillé dans une usine, mais elle ne savait pas forcément ce qu'il fabriquait. Elle fabriquait des pièces, mais elle ne savait pas pourquoi. Et ça m'intéresse. Tout le monde fabrique une petite pièce de quelque chose, on ne sait même pas à quoi ça va servir. Et comme il y a un centre de recherche nucléaire, ça me met un peu mal à l'aise parce que c'est une sorte d'implication sans savoir. Et je ne crois pas que ça décrit la plupart du travail à l'Union soviétique. Parce que c'est une sorte d'implication, tu vois.
Je voudrais bien vers ton travail, même en tant que réalisatrice, même si elle était utile, tu vois, c'est des rapports avec le travail. Se promener avec son manuel, tout ça. Et pour que tu détournes ça avec ton travail manuel.
Je suis tellement habituée à ce type de truc que je n'ai pas pu réfléchir à cet aspect, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un.
Ouais,
c'est vrai. Il faut mettre le
tiens, celui-là, on a ça.
Qu'est-ce que c'est?
J'ai récupéré ça dans un brocante, ça va film, mais bon.
c'est du vrai cinéma, du vrai cinéma. C'est un cinéma commercial.
Oui. On peut utiliser, ça peut servir à faire des tirages.
Ça peut servir. Si tu veux, tu peux les prendre. Hein. On s'en servira pas.
Bah, t'es sûr, tu veux pas essayer quoi?
Non. Bah, peut-être en vrai, ouais, pour le faire
ensemble.
Mais... J'aimerais bien voir, du coup, comment on pourrait faire pour le tourner.
Et le son est fait après, du coup, quand tu vois avec l'interview.
Oui, moi je tourne avec une Bolex, donc c'est pas possible de prendre le son en même temps parce que. Déjà, ça fait tellement de bruit que ça s'entend. Et donc, je fais tout le son après.
D'accord. Mais parce que tu peux avoir un moment, tu peux avoir le son sur la télé.
Finalement, oui. Mais si tu passes par une étape de. Si tu mets ensemble.
D'accord.
Une image du son et une image.
Ça serait marrant de voir ce que ça donne en faisant bouillir.
Le son. Bah oui,
depuis. Comment tu travailles le son? C'est quelque chose que tu travailles le son?
Mais c'est assez courant en fait. S'intéresser tellement à la destruction de l'image.
Exactement, ok. Ouais, voilà. Ça va.
Mais c'est peut-être plus compliqué de.
Peut-être que c'est, oui, travailler avec la bande, par exemple, manipuler la bande avec la même hiérarchie.
C'est
tout une autre compétence. Dans la bande optique, non?
Oui, c'est super. Il y a des cinéastes, Guy Sherwin, qui a, je crois qu'il a utilisé une tireuse optique pour imprimer l'image sur le côté son. Et puis tu peux entendre l'image. Bien sûr que ça fait du bruit, mais c'est vraiment cool. Et il y a des images d'un film que j'aime beaucoup, c'est des images de train, et donc ça ressemble en fait.
Parce que le système du son sur le film, ce que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est que c'est la lumière en fait qui trace une ligne, je ne pourrais pas expliquer le système. La bande son en fait elle est transparente et elle a une forme plus ou moins épaisse. Et c'est la lumière qui traverse, qui donne le son, en fait.
Mais il y a une sorte d'image qui ressemble à une onde sonore. Et c'est comme ça que ça se lit. En fait, tu peux voir...
Ah, sur ça, j'ai regardé, du coup.
Tu l'as déjà regardé?
Ouais, parce que je vois. Non, parce que j'avais entendu pendant la guerre, c'était un endroit, une zone qui pouvait dissimuler des informations. Et ça change de film, comme ça, et ça reste une espèce de message codé. Caché, en tout cas. Mm-hmm. Il y avait des gens qui étaient spécialisés, quoi, qui étaient... payé pour regarder tout le film, pour voir s'il n'y avait pas des messages. C'est souvent des trucs porno et tout. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, mais on n'a jamais idée. Mais du coup, le film que tu dis, il n'y a pas le son dessus. Il n'y a pas le son sur celui-là. Enfin, sur ce film-là.
Non.
Et tu t'es posé la question, la conservation du coup de tes films, tout ça?
La conservation de mes films. Moi, pas trop. Mais...
Il y a je sais que dans le cinéma, ils ont des problèmes avec ça parce que c'est inflammable, ou je sais pas, parce que ça périme aussi, les produits chimiques changent, quoi.
Bon, on se dit en même temps, parce que les gens qui sont contre la numérique se disent que c'est plus stable que les données numériques parce qu'on est obligé de transférer les données. Il y a quelques années, et là ça peut être projeté dans 100 ans potentiellement. Et en fait, cette pellicule elle est en plastique en fait. Donc, pas celle-là, mais la pellicule de tirage, donc la copie finale, et le plastique, elle est vraiment très durable. Elle n'est pas flammable.
Donc. C'est une des machines qu'il faut conserver pour le lire.
Voilà. Mais en même temps, on pourra toujours regarder comme ça, mais un fichier est cassé, on pourra pas.
Ouais. Et du coup, en question un peu éthique, je sais pas, mais du coup, tu nous présentes des films en numérique, parce que c'est plus pratique maintenant, tu les filmes du coup, et tu préfères, j'imagine, les diffuser avec la machine.
Moi, je tiens à la projection.
La projection.
Il y a pas mal de gens qui continuent de la projeter en 16 ou en 35.
à l'Abominable, ils sont vraiment très engagés. Ils ont même lancé un projet qui s'appelle Film Projection 21, .org, et c'est une sorte de charte. Ils veulent que les programmateurs le signent pour s'engager à essayer de projeter des copies de films, s'ils existent, de ne pas juste complètement cacher ce truc, support sur lequel on projette. Ouais. Moi, je préfère la projection argentique, mais je ne pourrais même pas dire exactement pourquoi. C'est juste plein de...
On a déjà l'écran, quoi. On a déjà l'écran
ancien. Oui.